Merci pour ce point d'actualité et retour aux événements de la semaine.
Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Et nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Bruno Amoussou, le leader du Parti social-démocrate béninois, et Gaël Giraud, jésuite, économiste. Dans un instant, nous allons parler de l'actualité africaine, mais d'abord, nous allons revenir sur la disparition de l'écrivain Bernard Lantéric, auteur de nombreux romans qui ont connu un grand succès, comme La nuit des enfants rois ou Toutes les femmes me quittent, par exemple. Il était producteur aussi. Il est décédé la semaine dernière d'une maladie dont nous allons parler avec l'accord de son épouse. Laure Keeling, cette maladie, c'est la sclérose latérale amyotrophique, une maladie implacable. Alors nous avons en ligne son spécialiste, le professeur Vincent Méninger. Bonjour, professeur Vincent Méninger.
Bonjour et merci de m'avoir demandé de venir.
Et c'est la moindre des choses. Pour parler de cette maladie que je qualifiais malheureusement encore d'implacable.
Dans la plupart des cas, oui. En fait, pour être très schématique, qu'est-ce que c'est que la sclérose latérale amyotrophique ? D'abord, ça n'a rien à voir avec la sclérose en plaques. C'est l'atteinte ou le progressive, très globalement, des cellules nerveuses qui commandent la motricité. Donc on peut imaginer ce que ça va donner, c'est-à-dire des paralysies progressives, paralysie des membres, paralysie ou difficulté à avaler, difficulté à parler et aussi difficulté à respirer. C'est une maladie qui appartient au groupe très très général des maladies neurodégénératives, mais surtout aux maladies rares, bien qu'elle touche à peu près 2 à 3 nouveaux cas par an en France.
Alors c'est une maladie implacable face à laquelle vous, le médecin, est désarmé aujourd'hui, ou quasiment désarmé.
Oui, c'est une maladie d'évolution progressive. Elle évolue sur des délais variables, ça c'est vrai, mais avec des formes très aiguës, comme malheureusement M. Lantéric, ou des formes très lentes. Mais c'est vrai que nous sommes aujourd'hui assez désarmés dans la mesure où nous disposons actuellement que d'un seul traitement, mais qui ralentit un peu la maladie, mais qui en tout cas ne permet pas de la stopper.
Alors si je voulais vous entendre aussi, docteur Vincent Méninger, c'est que malheureusement la recherche sur cette maladie est bloquée faute de moyens, c'est ça ?
La recherche, c'est toujours très cher. On ne se rend pas compte des difficultés que nous pouvons avoir, qui d'ailleurs sont malheureusement un peu croissantes. Et la recherche nécessite beaucoup d'argent. C'est des recherches longues, difficiles. Qui demande à la fois, il y a toute la recherche fondamentale qui se fait chez l'animal, qui est afin de mieux connaître les mécanismes, si vous voulez, de la maladie, les mécanismes intimes au niveau cellulaire. Et puis, il y a toute la recherche appliquée chez l'homme et la recherche thérapeutique. Or, tout ça nécessite beaucoup d'argent. Dans une maladie qui appartient encore une fois aux maladies rares et où il faut reconnaître que souvent l'investissement de l'industrie pharmaceutique ne peut pas considérer qu'il s'agit d'une maladie prioritaire et donc il y a, c'est vrai, d'importants besoins.
Alors c'est pas, si j'ose dire plus crûment, docteur Méninger, c'est pas une maladie rentable.
Voilà, elle fait partie des maladies, encore une fois, ces maladies rares ne sont pas toujours des maladies très rentables, entre guillemets, surtout dans une industrie pharmaceutique en souffrance, il faut bien le dire, et dans une recherche également en souffrance.
Est-ce qu'on connaît, Vincent Méninger, les causes de cette maladie ? Est-ce qu'on arrive à savoir comment elle se déclenche ? Est-ce que c'est lié aux gènes ou est-ce qu'il y a des causes extérieures, par exemple ?
Bien, au jour d'aujourd'hui, nous savons qu'une partie de la maladie, des patients, pardon, c'est-à-dire à peu près 3-4% des malades, en gros, sont porteurs d'une mutation génétique. C'est donc extrêmement rare. Et 97% des malades pour 97% des malades, on parle de maladie sporadique, donc il n'y a pas de gène immédiatement responsable. Et bien sûr, on envisage des facteurs environnementaux, enfin les causes un petit peu habituelles, mais là, la grosse difficulté de ces maladies, notamment de la SLA, c'est le temps d'évolution très lent au début de la maladie, puisque nous savons qu'entre un facteur causal qui va déclencher un processus pathologique au niveau de ses cellules et l'expression clinique, c'est-à-dire quand le malade commence à se dire qu'il est malade parce qu'il y a d'une paralysie ou des choses comme ça, eh bien il faut un temps qui est estimé actuellement entre 20 et 30 ans. Ça vous dit que, enfin, il est clair que on a beaucoup de difficultés dans ces conditions à étiqueter une cause. D'abord, c'est probablement pas une cause, mais en tout cas, ça rend bien sûr cette recherche très difficile.
D'où une conclusion, en tout cas pour cette interview, docteur Vincent Méninger, il faut vous aider.
Oui, on a vraiment besoin de fonds privés. Vous savez que c'est malin ou heureusement ou malheureusement, en tout cas, c'est comme ça. Nous avons besoin que les gens se mobilisent, nous avons besoin que le public connaisse mieux ces maladies et cette maladie particulièrement, et nous avons besoin de cette aide. Il existe, on peut retrouver toute une série d'informations sur notre portail, donc je crois que vous donnez.
Oui, nous avons toutes les références, oui.
Mais on a vraiment besoin de ça, oui.
Il faut d'abord en parler et ensuite vous aider.
Absolument, oui, c'est très important.
Merci docteur Vincent Méninger d'avoir été en ligne avec nous. Je sais que vos journées sont très longues et très graves aussi. Merci d'avoir été en notre compagnie. Alors donc, je précise que toutes les références des sites sur cette maladie sont sur notre page d'accueil, la page d'accueil de l'émission Semaine d'actualité sur le site de RFI, www.rfi.fr. Et nous allons donc commencer notre voyage sur le continent africain, à Mayotte, dont la population a choisi dimanche de faire de son territoire un nouveau département français, le 101e. Envoyé spécial Juliette Rangeval, dimanche soir.
Des drapeaux, des familles, du monde, la fête. Mayotte a dit oui au département, sans participation massive, mais à 95% environ. À la nuit tombée, tout le monde s'est rassemblé sur la place du marché et alentour à Mamoudzou pour célébrer l'ancrage en France de l'île de l'océan Indien au son de la musique mahoraise et de la marseillaise. Johnny est venu avec sa fille et son fils.
J'ai un grand-père qui a lutté pour l'indépendance des Comores dans les années 74. J'ai toujours vécu ici, je suis né ici, j'ai grandi ici. Et j'ai eu l'occasion de dire à mon grand-père que l'indépendance des Comores était un mauvais choix. Mais c'était leur choix et ils l'ont assumé jusqu'au bout. J'ai voté pour le oui parce que je suis convaincu que d'abord je suis français. On ne m'a pas obligé à être français. Voilà pourquoi je suis là ce soir avec mes deux gosses pour témoigner de cet attachement à la France. C'est un choix, mais ça n'a rien à voir d'un choix imposé.
Le département, c'est un désir vieux de 50 ans qui se réalise. Mayotte mettra encore des années à devenir un département comme les autres.
Alors globalement, aux Comores, le résultat n'a pas surpris. Beaucoup parlent néanmoins d'un référendum illégal. Correspondance d'Ahmed Abdallah Ngueni.
C'est l'indignation totale dans les autres îles de l'archipel des Comores qui constituent l'Union. Même s'ils s'attendaient à ce résultat, les Comoriens ont le sentiment que l'île sœur de Mayotte s'éloigne encore. Le député Seuf parle de mépris.
La France méprise non seulement les Comores, mais méprise la communauté internationale parce que ce référendum a été condamné par toute la communauté internationale alors que la France a tenu à le faire quand même.
D'autres, comme cet instituteur, estiment que la France a violé le droit international. internationale.
La France a bafoué les lois internationales parce que la France se déclare comme étant un pays démocratique alors qu'il n'a pas laissé les Comoriens maorais de s'exprimer de leur volonté sur leur propre pays.
Le comité maorais qui se bat pour le retour de Mayotte dans l'ensemble comorien ne s'avoue pas vaincu. Le taux d'abstention redonne espoir pour la suite de la lutte. Idriss Mohamed.
À mon avis, sur les 40% d'abstention, il y a au moins 30% de non. Deuxièmement, dans les grands centres, les non ont remporté plus de 10%, ce qui témoigne que le triomphalisme des uns devrait être beaucoup plus tempéré.
Malgré la victoire du oui, certains assurent que la diplomatie comorienne doit entrer en œuvre pour saisir les instances judiciaires internationales.
On notera aussi dans l'actualité africaine la mort de plus de 200 immigrants africains dans le naufrage de leur bateau au large des côtes libyennes. Et à Madagascar, la désignation par Ange Radzoel des membres de sa haute autorité de transition, malgré les demandes de ce qu'il est convenu d'appeler la communauté internationale, d'un retour à l'ordre constitutionnel et au retour du président déchu Marc Ravalomanana. Suite d'une semaine d'actualité en Afrique, vous l'avez compris, nous sommes en compagnie de Gaël Giraud, économiste jésuite, et de Bruno Amassou, ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin, président du Parti social-démocrate béninois et auteur de L'Afrique et mon combat aux éditions de l'Archipel. Un mot de commentaire sur ce qui s'est passé à Mayotte, Bruno Amassou.
J'observe que l'Union africaine ne partage pas ce qui a été fait à Mayotte et il faut remonter à 1974 pour comprendre la situation actuelle. Cette année-là, la France avait insisté pour avoir ce référendum séparé, île par île. Et c'est ce qui a fait que Mayotte a voté séparément par rapport aux autres. J'imagine qu'à l'époque, la France avait probablement des raisons stratégiques de vouloir disposer d'une position dans l'océan Indien et à cet endroit-là. La question que je me pose aujourd'hui, c'est de savoir si la France européenne d'aujourd'hui a encore les mêmes besoins stratégiques, et le référendum qui vient de se passer n'est que la concrétisation, le renforcement du choix qui a été fait en 1974.
Sauf que nous sommes en 2009.
Oui, exactement.
Suite d'une semaine d'actualité, Bruno Amassou, et un drame dimanche au stade Oufouette-Boigny d'Abidjan. Une bousculade a fait 19 morts et plus de 130 blessés. La sécurité du stade est pour le moins en cause. Correspondance dimanche de Norbert Navarro.
C'est un portail de fer à deux vantaux bloqué par des barres prises dans le mur d'enceinte du stade Oufouette-Boigny d'Abidjan. 2 mètres après le portail, à l'intérieur du stade, un escalier de 20 marches, à présent jonché de chaussures, de casquettes et maculé de sang. Quand la foule a tenté de pénétrer dans le stade en prenant d'assaut cette sortie de secours destinée à l'évacuation des tribunes, ce n'est pas le portail qui a cédé, mais le béton dans lequel les barres de fer qui verrouillaient cet accès étaient prises. Les premiers rangs à s'engouffrer dans l'escalier ont alors été précipités vers le bas sur les marches, puis piétinés par les suivants dans un irrésistible mouvement de foule. Jacques Anouma, président de la Fédération ivoirienne de football, dément qu'un problème de double billetterie ait été à l'origine du drame et confirme que les accès du stade sont homologués et conformes à la réglementation de la FIFA, la Fédération internationale de football. Le gouvernement a demandé une enquête pour établir les circonstances de la bousculade et pour comprendre pourquoi la foule, plus nombreuse dehors que dedans, a pu approcher en masse l'enceinte sportive alors que les abords du stade étaient contrôlés par les forces de l'ordre.
Bruno Amassou.
Oui, je voudrais d'abord saluer la mémoire des victimes et marquer toute notre solidarité avec le peuple ivoirien et faire observer que malheureusement, ce n'est pas la première fois que de tels drames se produisent, même dans la région. Au Ghana, il y a eu une situation semblable, terrible. L'important dans ce genre de situation, une fois l'émotion maîtrisée, c'est de tirer des conclusions et d'arriver à trouver des formules qui évitent à l'avenir le renouvellement de ce genre de situation. C'est pour cela que...
C'est là l'enjeu, effectivement.
Oui. Mais oui, et je souhaite vivement que la commission d'enquête mise en place par le gouvernement ivoirien associe la CAF et la FIFA de manière à ce que les conclusions qui seront tirées de l'analyse de ce qui s'est passé à Abidjan puisse servir aux autres États africains et leur permettre
d'améliorer leur système de sécurité au niveau des stades et des grands rassemblements.
Et il y a eu aussi des catastrophes en Europe, hein, je pense au drame du Hazel aussi.
Bien sûr, mais c'est le partage d'expériences. Et j'ai été très heureux de voir que très rapidement, la FIFA elle-même a réagi, a manifesté une forte solidarité envers la Côte d'Ivoire et a demandé à ce que les matchs qui se tenaient puissent observer une minute de silence. Mais j'espère bien que ça ne se limitera pas à cette manifestation, mais qu'au contraire, une conclusion sera tirée de toutes ces expériences pour améliorer la sécurité des stades en Afrique.
Suite d'une semaine d'actualité, quand on reparle des tribulations du président soudanais Omar El-Béchir, alors que la Cour pénale internationale demande, vous le savez, son arrestation, il continue à voyager à Doha, par exemple, lundi, à l'occasion d'un sommet de la Ligue arabe, qui lui a d'ailleurs accordé son soutien, Olivier Roger, mardi.
Tapis rouge pour Omar El-Béchir. La presse qatari résumait parfaitement hier l'ambiance à Doha, où le leader soudanais fut la grande attraction du jour. Dans une courte allocution, Omar El-Béchir a d'ailleurs demandé au monde arabe de le soutenir et de réclamer l'annulation du mandat d'arrêt de la CPI. Le président syrien, Bachar el-Assad, donnait le ton, réclamant un soutien sans faille à l'endroit du dirigeant soudanais et affirmant que ce qui arrivait au Soudan était un nouveau chapitre dans les efforts pour affaiblir ce pays. Autre victoire symbolique, Omar El-Béchir a côtoyé dans la salle du sommet le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Rappelons que c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui a demandé à la CPI d'ouvrir une enquête sur les crimes commis au Darfour. Ban Ki-moon a appelé les pays arabes à transcender les tensions liées à la CPI et il a demandé au numéro 1 soudanais de revenir sur l'expulsion de 13 grandes organisations humanitaires étrangères. Seul bémol pour Omar El-Béchir, il semble que les dirigeants arabes aient rejeté l'idée d'organiser prochainement à Khartoum, un sommet ordinaire. Le Soudan souhaitait voir ainsi traduit dans les faits la solidarité affichée dans les discours.
Suite d'une semaine d'actualité, Bruno Amoussou, les tribulations d'Omar El-Béchir inspirent chez vous un commentaire ?
Oui, j'observe que malgré la décision prise par ce pays, le président soudanais participe à un certain nombre de conférences, ce qui pose des questions sur l'efficacité de la mesure prise. Et c'est pour cela que je pense que l'Union africaine et les autres instances internationales devraient mieux se concerter pour que les populations du Darfour ne soient pas en définitive victimes des choix qui ont été faits et de ce qui est en train de se dérouler actuellement.
Moi, je voulais juste réagir à propos d'Omar El-Béchir en disant que, bien sûr, évidemment, la Cour pénale internationale aujourd'hui pointe l'index sur ce dictateur, mais enfin, ça fait 10 ans, plus de 10 ans, que l'on sait que Khartoum pratique une espèce de génocide lent des populations du Sud-Soudan. C'est pas une découverte, ça n'est que maintenant qu'on prend quelques mesures qui, manifestement, sont inopérantes. Ce qui est en jeu, je crois, derrière cette affaire, c'est le pétrole du sud du Soudan qui court jusqu'à travers le Tchad et le Cameroun. Voilà. On pointe l'index très tardivement sur certains dictateurs, pendant qu'on soutient militairement d'autres. Il y a une justice à deux vitesses.
Notre adresse électronique, merci pour vos nombreux messages que vous attendez chaque samedi. En voici quelques-uns, comme chaque semaine. Bonjour à Ahmed Saloum, professeur d'espagnol à Tiaroua, près de Dakar, au Sénégal. À Amour Sidoine, à Yaoundé, il souhaite un bon week-end à sa famille et salue son frère Franck Hervé en Pologne. Bonjour à Chiaka, qui vit au bord du fleuve Djoliba, à Bamako, à Beya, à Dakar. Bonjour à Youba, à Nouadhibou, en Mauritanie. Un bonjour aussi à Idrissa, étudiant en licence en développement à l'université de Bamako. Il salue son père à Niamey. Un salut à Jules Bruno, étudiant en droit à l'université de Yaoundé 2 à Soa. Il a 26 ans et écoute RFI depuis près de 12 ans. Merci. Bonjour à Pascal à Lomé, au Togo. Il nous a demandé une carte postale de l'équipe. Malheureusement, nous n'en avons pas. Il salue son amie Béatrice et son cousin Adi Vignon, élève au lycée de février. Il leur souhaite bonne chance pour le bac. Enfin, bonjour à Patrice qui salue son frère Vincent à Paspanga au Burkina Faso et ses amis lycéens à Bobo-Dioulasso.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Et nous allons conclure cette émission avec l'économie. Nous avons commencé avec le G20. Mais d'abord, un mot sur votre parcours, Bruno Amoussou, un parcours très riche qui est dans le premier tome d'Afrique et mon combat aux éditions de l'Archipel. Un parcours sur fond de coup d'État. Indépendance du Bénin en 1960, que vous avez connu, 1963, 1965, 1967, 1969.
Oui, c'est vrai que la période couverte par le livre est celle où, après, juste au lendemain des indépendances, à la recherche des formules musclées pour propulser le développement, on croyait qu'il fallait d'abord des partis uniques, il fallait des régimes forts. Et ces régimes forts, on les a recherchés d'abord dans les partis uniques. Ensuite, lorsque cela n'a pas donné de résultats, on est passé au coup d'état militaire, au militaire, et ce n'est pas fini, puisque l'actualité nous montre que on pense encore que les militaires peuvent résoudre des problèmes.
Pour ça, la Guinée-Conakry, par exemple.
Oui, bien sûr, dans ces différents pays. Donc, pendant toute cette période, on a pensé que les militaires, la prise de pouvoir par les militaires pouvait permettre de résoudre les problèmes. Cela a échoué, et on est passé ensuite aux grands fonctionnaires internationaux, économistes qui devraient diriger les pays. Et maintenant, bon, je crois que nous sommes en train de revenir des économistes aux politiques.
Aux politiques.
Alors, je crois que c'est ce parcours que j'ai voulu décrire dans ce livre.
Alors, un parcours passionnant qu'il faut donc découvrir dans ce livre et qu'il faut aussi découvrir sur votre blog, puisque vous avez un blog, Bruno Amoussou, en un seul mot, .blogspot.com. Bruno Amoussou.blogspot.com. Et nous allons donc terminer avec le G20. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la place de l'Afrique dans ce G20, dans le capitalisme que vous appelez de vos voeux, dans cette réforme, plus exactement du capitalisme que vous appelez de vos voeux, Gaël Giraud. Et je suppose que l'Afrique est aussi présente.
Oui, l'Afrique joue un rôle crucial à mon avis. Nous ne pourrons pas développer dans les décennies à venir un véritable capitalisme durable et équitable sans prendre en compte les besoins des populations africaines. Ça me semble indispensable et ça suppose un changement, une révolution mentale de la part des pays du Nord qui est indispensable aussi bien au niveau des instances de gouvernance, au FMI, dont on a vu au G20 qu'il a été doté de nouvelles fonctions, mais également dans la façon dont les entreprises elles-mêmes fonctionnent. Je pense par exemple à des entreprises d'extraction minière ou pétrolière qui donc extrait par exemple le pétrole du sous-sol africain. Est-ce que ces entreprises se posent la question de leur propre responsabilité sociale, sociétale, politique à l'égard des populations au milieu desquelles elles extraient le pétrole? Aujourd'hui, je crois qu'il faut une révolution, il faut que ces entreprises comprennent qu'elles ont aussi une responsabilité à l'égard du développement de ces populations, et les difficultés que connaissent par exemple les pétroliers au sud du Nigeria aujourd'hui l'illustrent à mon sens de manière exemplaire.
Oui, parce que une des thèses de votre livre, c'est qu'il faut réformer le capitalisme et pas pour recommencer après tout ce qu'on a connu, les bulles, etc. etc.
Exactement. Il faut que vraiment toutes les parties prenantes prennent leur part de responsabilité, et ça passe aussi par les entreprises. Les entreprises qui ont un côté prédateur peut-être sont une partie du problème, mais elles font aussi partie de la solution.
Bruno Amoussou.
Je voudrais insister sur le fait que dans les décisions que le G20 vient de prendre, il faudrait veiller à ce que tout ce qui concerne le financement du développement intervienne effectivement et que des conditionnalités excessives ne viennent pas contrecarrer les espoirs soulevés aujourd'hui. C'est pour cela que, tout en étant très heureux de ces décisions qui ne sont qu'un premier pas, je souhaite vivement que les dispositions soient prises pour que nous puissions avoir de bons résultats dans les années à venir.
Ah, une question plus personnelle, Bruno Amoussou, qu'allez-vous faire maintenant sur le plan politique au Bénin? Vous êtes le leader du Parti social-démocrate béninois, membre d'une coalition donc.
Le Parti social-démocrate est membre d'une coalition et nous sommes en train de nous préparer pour les élections présidentielles qui auront lieu en 2011. Et évidemment, on s'échauffe pour l'instant sur la touche et en attendant que le match commence. Et nous en sommes pour l'instant, certains sont dans les vestiaires, d'autres sont déjà sur les pistes périphériques, et c'est à ce moment-là que les choses sérieuses vont se mettre en route.
Et lors du dernier match, si je puis continuer à utiliser cette métaphore, en 2006, vous étiez en troisième position.
Oui, en 2006, j'étais en troisième position, et en 2011, on verra bien ce que la coalition à laquelle je participe fera, mais ce qui est certain, c'est que on fera en sorte qu'il y ait un nouveau souffle dans le développement économique et social du Bénin.
Ben, vous reviendrez nous en parler à ce moment-là.
Ce serait avec plaisir.
Merci Bruno Amoussou. J'ai oublié de dire, Gaël Giraud, que vous avez aussi un site qui permet de continuer le débat sur cette réforme du capitalisme.
Exactement, où tous les auditeurs de RFI sont invités à faire leurs propres propositions pour réformer le capitalisme et à venir les discuter avec les auteurs de mon ouvrage. Donc ce site, c'est www.20propositions.com. Vous êtes tous bienvenus.
Dites-le encore une fois.
www.20propositions.com.
Merci Gaël Giraud. Vous avez donc coécrit avec d'autres spécialistes, notamment Cécile Renoir, 20 propositions pour réformer le capitalisme, un ouvrage édité chez Flammarion. Merci beaucoup Bruno Amoussou d'être venu nous voir. Je rappelle que vous avez écrit L'Afrique et mon combat, un livre édité aux éditions de l'Archipel. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky, technique bien sûr Cyril Etienne. Une session à écouter aussi sur notre site www.rfi.fr. Bon week-end, bonne semaine et dans un instant des nouvelles du monde sur RFI.
All what we need is love. Give love as much we can. Come music, brand new day.